Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 143e Comics Weekly. Cette semaine, nous allons parler de Marvel avec une grosse série de titres Avengers. Nous ferons une petite section digitale. Dans l'indé, nous aborderons des choses comme Walking Dead, Chill Music, Archer and Armstrong ou encore The Legend of Oz. Et enfin, nous terminerons avec DC pour les titres Batman ainsi que Green Lantern et la JLA. Et comme d'habitude, en fin d'émission, vous retrouverez la partie TPB avec les meilleurs TPB sortis cette semaine. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Avec moi cette semaine, Bruno.
Oui, salut à toutes et tous.
Mister René Bunny.
Bien le bonjour à tous.
Et Nono.
Et bonjour les enfants.
Comme c'est étonnant.
On sait que c'est ce que tu préfères.
Oui, toujours.
Voilà, ça c'est fait, la vanne pédophile est faite, on pourra éviter de la refaire plus tard dans l'émission comme ça.
De toute façon, tant qu'il y a des poils...
C'est légal. Ouais. Et on commence par Marvel et justement avec toi Nono qui va nous parler du 9e numéro de Avengers Arena, une série à enfants bien sûr.
Oui, bah oui, complètement, parce qu'on parle d'ados dans cette série. Donc, deuxième partie de l'arc en 5 qui s'appelle Game On. Toujours Dennis Hopless au scénario, Kev Walker au dessin. Et au niveau de l'ancrage, on a Jason Gorder qui ancre les pages 6 à 15 et Kevin Walker qui fait le reste. Ça se remarque quasiment pas dans l'issue. Donc, on reprend exactement là où on s'était arrêté au numéro 8, c'est-à-dire avec l'arrivée d'un petit nouveau, qui n'est pas si nouveau que ça, il s'appelle Tim Bashir. C'est le frère jumeau siamois intégré dans la tête de Cathy. C'est un peu compliqué, en fait, on apprend... Moi, je ne connaissais absolument pas son existence, clairement, et je sais pas d'où il sort, et même d'où Cathy sortait, parce que j'ai jamais lu de série Young avant. Et là, par contre, on apprend donc, en fait, que cette Cathy a un frère jumeau caché dans sa tête, et qu'il est réapparu, ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas refait surface, qu'il était enfermé par Cathy à l'intérieur de son crâne. Et là, en fait, il refait surface, donc c'est très troublant, parce qu'en fait, ils ont le pouvoir, à part de commander les machines, ils ont le pouvoir d'avoir deux corps, deux personnalités différentes, dans la même tête. Donc c'est assez bizarre. Et en fait, on a appris également dans l'épisode précédent où était passé Darkhawk. Et donc là, ça va virer à la grosse baston, avec pas mal de choses qui se passent. Pour moi, cette série est toujours extrêmement bonne. On en parlait avec Bruno hors antenne, et vraiment, c'est une très très bonne surprise de ce Marvel No, parce que c'est une série qui pour moi, s'améliore d'épisode en épisode. Là, on en est qu'à la deuxième partie de cet arc en 5, et c'est vraiment hyper intéressant. Enfin, on a un mort. Ça faisait un moment que c'était pas arrivé dans l'épisode.
Donc, dans l'épisode,
dans la série, pardon. Merci Benny.
Dans les trois pages, ça commence à manquer. Voilà.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un mort, et là enfin on en a un. Donc ça bouge. Un mort assez surprenant et un retournement de situation à la fin qui est très captivant pour cet arc.
Ouais. Et c'est bien amené. Ouais.
Voilà, très bien amené. J'ai vraiment envie de lire la suite. Pour moi, c'est mon gros coup de cœur de la semaine, et c'est donc un bail. Bruno, il me semble que tu l'as lu également.
Ouais, ça a failli être aussi mon coup de cœur. J'aime vraiment beaucoup cette série. Je trouve que les personnages qu'ils ont choisis pour ce jeu un petit peu d'assassinat les uns les autres, c'est un bon casting. Les nouveaux persos qu'ils ont créés sont intéressants. Et ce personnage, justement, un petit peu avec deux personnes dans sa tête, est plutôt cool. Donc, franchement, ça me plaît bien et il me tarde de lire la suite. Même si, comme toujours, comme après chaque épisode, on se dit, est-ce que tout se passe dans la réalité ou est-ce que c'est encore dans un jeu numérique imaginé par Arcade ?
On a eu un peu la réponse avec l'épisode d'Arcade quand même.
Voilà, mais il y a quand même pas mal de morts et quelles vont être les conséquences plus tard. Mais en tout cas, c'est vraiment toujours aussi captivant et moi j'aime beaucoup cette série.
Carrément.
Un bail aussi.
Très bien, on va continuer avec le 11e épisode de Avengers. C'est scénarisé par Jonathan Hickman avec des dessins de Mike Deodato. Et je dois avouer que cet épisode m'a complètement perturbé. Puisque nous n'avons pas un épisode d'Avengers, mais un épisode de Secret Avengers à l'époque où c'était écrit par Jonathan Hickman, donc la précédente incarnation de la série. Grosso modo, on va avoir une petite équipe d'Avengers composée de Shang-Chi, donc le maître du Kung-Fu. Nous avons aussi Miss Marvel, Black Widow, Cannonball et Sunspot, qui vont aller s'infiltrer dans un casino sur l'île de Macao et essayer de découvrir ce que l'IM veut acheter comme arme biochimique. Voilà.
D'accord.
C'est vraiment un épisode de Secret Avengers, c'est pas du tout un épisode d'Avengers. Alors après l'arc qu'on vient d'avoir, on a maintenant ça. Je suis complètement perdu. L'épisode est...
Mais il y a un lien avec ce qui s'est passé avant ?
Ben non, absolument pas. Alors je pense que la fameuse arme chimique, mais on n'a aucune certitude hein, puisqu'on n'a aucune révélation dans cet épisode, je pense que la fameuse arme chimique doit provenir de ces espèces de trucs terraformés par je sais plus comment il s'appelle là.
Ex Nihilo.
À chaque fois je veux l'appeler Exodus, mais je sais que c'est pas
t'as
ça.
T'as du mal, ouais.
Mister Frit.
Le gros bonhomme
c'est
jaune.
Ça,
hein.
C'est ça, le gros Monsieur bonhomme
patate.
Jaune. Mais je pense que ça va venir de ça, et on a des ordres de Captain America qui sont de s'infiltrer, de surtout pas se faire repérer, de pas faire de vagues, etc. Bon, bilan, personne va respecter cette condition. Mais la mission sera quand même réussie, pas forcément par la personne que l'on croit. Encore une fois, Jonathan Hickman a choisi un personnage central qu'il avait déjà utilisé. Bon, je suis un peu déçu.
Ouais. Par contre, t'as dit les Secret Avengers de Jonathan Hickman, mais sauf erreur de ma part, je crois pas qu'il ait fait les Secret Avengers avant, c'était Remender, il me semble.
Au tout début de la série, Secret Avengers, c'était lui.
Il a fait les Secret Warriors.
Ah, Secret Warriors, pardon, voilà. Excuse-moi, j'ai confondu.
C'est pour ça, tu sais, je me dis.
Oui,
c'est
Secret
bizarre,
Warriors, effectivement. Effectivement, ouais. Si c'est les Secret Warriors, j'ai pas Secret Avengers. Autant pour moi. Merci de m'avoir corrigé, Bruno. Donc, effectivement, moi, c'est pas un épisode d'Avengers, ça. Donc, pour moi, c'est juste un check-it. Je pense que cet épisode est totalement dispensable.
Ouais. À moins que ça se trouve dans le suivant, il va y avoir tout qui va être relié et tout, voilà.
Oui, mais je pense qu'on peut, on peut très bien le zapper et se contenter de lire le résumé.
Ouais.
Pour le mois prochain.
Ouais,
cet épisode.
Et au niveau des dessins, ça donne quoi?
Les dessins sont très beaux, c'est du Mike Deodato, d'accord. Donc voilà, ouais. C'est vraiment très joli.
C'est son premier numéro sur Avengers. Et...
Non, c'est franchement très joli. Mike Deodato, moi j'ai absolument rien à dire, je suis toujours très client de ce qu'il fait. Maintenant, c'est au niveau du scénario où ça pêche, à mon goût.
D'accord.
Donc je comprends pas trop où il veut en venir, sachant qu'il y a Infinity qui arrive, je sens que toute cette histoire ne sera absolument pas résolue, que ce sera mis entre parenthèses pour Infinity, qu'on y reviendra après, ce qui me dérange un petit peu.
Je pense justement que ça prendra suite dans Secret Avengers et que Hickman travaille un peu en collaboration avec ce que fait Nick Spencer sur Secret.
C'est ce qu'il faut espérer, ouais, puisqu'on a un personnage comme Black Widow qui est utilisé dans les deux séries, et qui a dans des rôles relativement similaires finalement.
Mais il me semble que ça avait été teasé le fait qu'ils allaient bosser ensemble sur quelque chose. Donc ça
va peut-être déboucher. Il va y avoir Nick Spencer qui va coécrire Avengers en fait.
Ah bah voilà, ouais. C'est pour ça, d'accord.
Ouais. Okay. Ouais, mais bon, enfin le principal problème n'est pas résolu, on part sur totalement autre chose avec des personnages qui sont plutôt des seconds couteaux, voire même des troisièmes couteaux pour certains. Captain America, on ne le voit pas, on sait que c'est simplement lui, puisqu'il y a cette nouvelle façon d'écrire avec, vous savez, ces espèces de cases narratives où on a juste le symbole de la personne qui parle. Et c'est comme ça qu'on arrive à le reconnaître.
Il est occupé dans Uncanny Avengers.
Donc, bref, pour moi, juste un check-in de cet épisode, pas mémorable du tout. On va continuer toujours sur les Avengers, avec le Avengers Assemble 15 AU. Donc Taïn a Ultron, Edge of Ultron, pardon, et c'est Nono qui nous en parle.
Effectivement, Avengers Assemble AU avec des gens que je ne connais absolument pas au crédit, donc Al Ewing, qui doit être le fils de
Pierre. Patrick
Ewing. Ouais.
Je pense que c'est Felicity, ça va être le fils de Bobby.
Ouais, ça va être le fils de Bobby, donc Al Ewing au scénario, Butch Geiss au dessin.
Butch Geiss, c'est cool.
Ouais, je connais un peu Butch Geiss. Tom Palmer avec Rick Maguire à l'ancrage. Je l'ai lu uniquement parce que c'était un tie-in à Age of Ultron, parce que je ne lis pas d'habitude Avengers Assemble. Donc déjà, j'avais lu le premier, il me semble, à l'époque où c'était sorti, et il me semble que Avengers Assemble, ça se basait sur les personnages du film, de l'univers cinématique de Marvel. Alors, peut-être que ça a changé de direction depuis.
Parce que là... Le premier arc était écrit par Bendis en 8 épisodes, c'est là où on avait la réintroduction de Thanos, etc., ce que vous avez pu découvrir en français tout récemment, quoi.
Ouais, voilà, donc moi j'étais resté sur ce postulat.
Par la suite, c'est devenu plus la série de Captain Marvel, en fait, puisque c'est deux comics qui écrit.
D'où le, effectivement la présence, l'omniprésence de Captain Marvel. Donc effectivement, on
comme
commence...
si Captain Marvel pouvait soutenir deux titres. Hein.
Oui, bah oui. Donc on commence avec une Captain Marvel donc qui est à Londres, qui est en vacances apparemment parce qu'elle allait simplement visiter les musées, etc. Et manger du chocolat, c'est ce qu'elle dit. Ouais, c'est génial. Et il y a Ultron qui débarque. Voilà, c'est juste au début de l'invasion d'Ultron de la Terre. Et voilà, elle se retrouve dans le British Museum où Excalibur a réussi à faire un havre de paix. Donc où là où il y a les héros britanniques comme Captain Britain, Black Knight. Et en fait, il décide d'aller péter la gueule à Ultron. Il y a un moment très très marrant. Le seul moment que j'ai bien aimé dans ce comic, c'est la première page. C'est dommage quand même.
Donc vous pouvez aller sur le previews.
Voilà. Et en fait, c'est la première page, c'est un mec qui se retrouve face à des Ultrons, mais des Ultrons très bizarres, des Ultrons qui ressemblent pas du tout à des Ultrons, et où ces robots lui disent le fameux Submit or Perish.
Or Perish.
Et donc ça fera rire ça fera sourire, on va dire les adorateurs et les Whoviens, ceux qui aiment Doctor Who, parce que le gars leur dit mais pourquoi pas dire plutôt exterminate, et il y a les robots qui font exterminate voilà. Donc je me suis dit putain, ça démarre bien, c'est cool, c'est vachement bien, il y a une référence à Doctor Who et tout, il y a Captain Marvel qui arrive, qui pète la gueule aux robots, tout ça c'est cool. Et après en fait c'est complètement nul. Je suis pas un grand fan de la mythologie Marvel du côté de la Grande-Bretagne avec toute cette magie, tout ce côté Excalibur, Captain Britain, etc. Je connais très très peu. Ils font la découverte d'un ancien super-héros des années 80, un mec qui s'appelle Computer Graham, qui était capable dans les années 80 d'aller dans les jeux vidéo pour empêcher les super-vilains des jeux vidéo d'envahir le monde réel.
Oh putain.
Ah ouais.
J'allais dire voilà. Qu'il y avait une Amstrad, mais j'étais pas loin. Alors.
Mais justement, il le dit, et le problème avec lui, c'est que la dernière fois qu'il a utilisé ses pouvoirs, c'était pour aller dans un Commodore 64.
Oh,
donc ça date, et c'est lui en fait qui va aller, en fait ils se prennent comme mission, lui, Captain Marvel et Captain Britain, d'aller voir Ultron, et lui il va rentrer à l'intérieur d'Ultron. Donc,
ah mais ça a l'air rigolo.
Ouais mais non. En fait, ils se rendent compte qu'effectivement Ultron n'est pas là, ça on le savait déjà. C'est une entité d'Ultron, c'est pas le vrai Ultron. Et voilà, et le seul intérêt de cet épisode, c'est de savoir pourquoi Captain Marvel et Captain Britain ne sont pas dans l'Age of Ultron qu'on lit la série régulière, on va dire.
D'accord.
Donc voilà, pour moi c'est un pass.
Donc ça se passe avant en fait les modifications faites dans Age of Ultron récemment.
Ouais, voilà, tout à fait. D'accord. Ça se passe vraiment au début de l'invasion.
Ok.
Mais honnêtement, c'est un pass. N'allez pas claquer votre argent là-dedans.
Très bien. On continue toujours sur les Avengers. Hein. Décidément, il y en a partout cette semaine avec la sortie du Uncanny Avengers numéro 8, Mr. Ebony.
Oui. Alors il s'agit de Rick Remender au scénario bien sûr et Daniel Acuña au dessin. C'est un épisode que j'ai trouvé assez mou cette fois-ci. Les troupes se rassemblent pour aller affronter donc les deux fils d'Apocalypse. Enfin, le fils et la fille, puisque visiblement il y a un gars et une nana, quoi.
Osé dire un gars et une fille, c'est ça?
Un gars et une fille, ouais, voilà. J'oublie à chaque fois leur nom, parce que c'est vrai que, pour le moment, les
bah, Chouchou et Loulou.
Ouais, voilà, Chouchou et Loulou, qui sont là, avec leur armure un petit peu Chevalier du Zodiac, version Hadès. C'est même complètement ça, en fait. En ce moment, Marvel est très porté sur le manga, je remarque. Ils ont dû en lire quelques-uns.
Ça
et
fait penser
finalement...
à des samouraïs, plutôt. Samouraïs de l'éternel.
Ah non, je t'assure que les ailes qu'ils ont dans le dos, c'est les surplis d'Hadès, au fait. Mais bon, d'ailleurs, ça va bien avec leur thème, enfin Apocalypse, tout ça. Mais bref, qu'importe. On voit donc l'équipe de Uncanny Avengers se rendre un petit peu sur les lieux de l'affrontement. Il y a aussi Thor qui au fait est mis à mal. Enfin, il retrouve Shiro, donc Sunfire, si je dis pas de bêtises.
Ouais. Qui n'était donc pas mort.
Qui n'était donc pas mort, ouais, dans le premier épisode. Et il en apprend plus sur au fait les origines de l'apparition de ces deux fils d'Apocalypse qui lui font tout un laïus sur leur plan et pourquoi ils sont là et en quoi Thor est responsable de ce qui va arriver. Ça on le savait déjà puisqu'on a lu l'épisode, il y a deux épisodes de ça où au fait on voyait, c'était le dernier peut-être, je sais plus d'ailleurs.
Non, c'était le 6.
C'était le
Ouais, c'était le
6,
6.
dans lequel on voyait un petit peu que Thor effectivement était mêlé à tout ce qui arrive à présent. Donc finalement, on n'apprend pas grand-chose dans cet épisode, et c'est vraiment un épisode, je dirais, de calme avant la tempête, quoi, un épisode de transition. Il y a un truc qui m'énerve un petit peu avec Uncanny Avengers de Remender, c'est qu'il passe souvent d'un style narratif à la Strange, enfin dans les années 80, où tu sais, on te dit. Voilà, il fait ci, il fait ça, il envoie un rayon, il est pulvérisé par la force de son ennemi. Et puis d'un seul coup, un style narratif moderne avec donc des dialogues soit intérieurs, soit des dialogues entre les persos. Mais c'est assez bizarre de passer de l'un à l'autre comme ça. Il le fait super souvent et c'est assez déstabilisant et assez chiant à lire finalement.
Il y a juste une chose que tu as oubliée, c'est le sort de Captain America.
Oui, Koki. Bah d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il nous le montre là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, je veux dire, il est pas, il est plus, il est avec l'équipe là, Uncanny Avengers. Alors, j'ai peut-être loupé un truc.
Il était dans la station du Sword quand elle a
Quand ça a
explosé.
disparu, ouais.
Voilà, il a réussi, c'est Sunfire
C'est Sunfire, ouais.
qui l'a foutu de force dans un
Une
escape
capsule.
pod, voilà, une capsule de sauvetage. Merci, je cherchais le mot français, ça me venait pas. Dans une capsule de sauvetage. Et en fait, cette capsule a atterri au Soudan,
Ouais,
là où on
ouais.
n'aime pas les Américains, bien sûr. Et il se rend compte, comme tout le monde d'ailleurs, il se rend compte peu à peu que tout était prévu. Tout était prévu à l'avance. Et il
Et oui.
tombe sur un message qui lui est destiné, comme quoi tout était prévu. Alors, qui est l'auteur de ce message?
Bah
Mais,
Bendis. Forcément.
en tout cas, j'ai trouvé que cette partie-là était assez intrigante.
Ouais.
Tu l'as lu aussi, hein, Bruno?
Oui, et moi j'ai encore une fois j'ai adoré, j'aime beaucoup ce qui se passe dans Uncanny Avengers en ce moment, c'est vraiment la suite spirituelle de Uncanny X-Force.
Bah oui.
Je trouve en plus que c'est peut-être l'un des plus beaux titres qu'on ait chez Marvel avec le Thor. J'adore ce que le dessinateur fait sur ce titre. Les explosions sont sublimes. Après,
C'est bien dessiné
tout
les
ce qui se passe.
explosions.
Ouais, non mais tout le reste même. Et puis j'aime bien voilà la dynamique d'équipe au sein des Uncanny Avengers.
Bah, je pense que la
Voilà.
plus belle page du dessinateur reste quand même la dernière.
La dernière, ouais, elle est quand même assez stylée, ouais. Je sais pas si, j'ai
Comprendront
pas
ceux
fait le
qui ont
compte de
lu les
page. Je sais
épisodes.
pas si, ça fait partie des pages qui comptent dans le. Si ça fait, je sais plus, il y a 22 pages. Mais
20,
oui,
vingt.
il s'est pas foulé, on va dire. Mais non, non. Par contre, franchement, l'histoire est excellente et il se passe des choses quand même assez graves par rapport à Kaba, par rapport à toute la mythologie autour d'Apocalypse et de ses enfants. Et bah, il y a un bon petit cliff à la fin, quoi. Donc.
Oui, puis bon, voilà, les choses avancent, tout le monde commence à se rendre compte que Wolverine est mêlé à une affaire assez bizarre concernant les fils d'Apocalypse. Certains ont même
Oui.
certaines réponses maintenant. Voilà, je sens qu'il va y avoir une grosse discussion dans l'équipe, enfin, s'ils en réchappent.
Ouais.
Ouais, bah moi
Non, c'est cool.
je trouve ça moins punchy et moins fun à lire que justement Uncanny X-Force.
X-Force.
Ouais, bon.
Mais ah, on n'est pas dans la même dynamique d'équipe, on est déjà dans une équipe qui se fait pas confiance.
Mais faut dire qu'il avait aussi mis le temps de démarrer, hein. J'ai vraiment
Ouais,
commencé.
puis Uncanny X-Force, c'était des Black Ops, hein. Là c'est une équipe qui est devant le public et tout, donc c'est vraiment différent la dynamique, ouais.
Mais il m'a fallu une bonne dizaine d'épisodes pour rentrer dedans totalement, donc là ça va peut-être être pareil.
Oui, et puis
Le temps
rappelons
qu'il
qu'aussi
place.
que ce premier arc ne joue pas en la faveur de cette série aussi. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Honnêtement, depuis le numéro 5, la série est vraiment solide. Il nous
Ouais.
fait vraiment avancer l'histoire à chaque fois. Ça prend peut-être son temps. On prend déjà le temps à le lire parce que c'est quand même
Par
extrêmement
contre,
verbeux.
ouais.
Mais voilà, il y a des choses qui bougent, quoi.
Il y a un truc qui me fait peur, c'est le preview du prochain épisode, Hunters, The Age of Ultron. Donc je vois pas trop ce que ça
Ouais,
vient
mais
foutre
ça,
là.
c'est un numéro AU aussi,
C'est un
donc
numéro
oui,
AU,
c'est
vraiment.
le numéro 8
Ouais.
AU et on va
Ouais.
comprendre, ça avait été déjà teasé. C'est ce que les jumeaux Apocalypse vont voir, eux, dans cet univers-là, puisqu'ils voyagent eux aussi dans le temps, notamment ouais. grâce à Kang. Mmh.
Papa Kang.
Du coup, on va aussi comprendre mieux pourquoi ils sont en train de mettre en place leur plan.
Ouais. En tout cas, pour moi, c'est un bail.
Pareil pour moi, un bail aussi.
Pour moi, ce sera juste un check-it, ouais, cet épisode.
Donc au final, on remonte quand même sur Uncanny Avengers par rapport au premier acte, parce que
je n'ai pas encore
lu la suite. Ah bah, je les ai, mais je les ai pas encore lus.
À partir du 5, c'est nettement mieux. Franchement, il y a même aucune comparaison possible entre. T'as l'impression que c'est pas la même série, quoi. D'accord. En tout cas, que c'est pas écrit par la même personne. C'est surtout ça qui est complètement fou, quoi.
Le changement de dessinateur doit aider aussi pas mal, je pense.
Ah, ça aide pas mal aussi.
Bah, c'est surtout en fait qu'avec John Cassaday, vu qu'il avait pris du retard, il l'avait dit en interview, il a repaufiné les dialogues, repaufiné, ce qui fait qu'il les a tellement peaufinés que c'était chiant.
Ouais.
Il y a trop touché, je pense que le premier jet était peut-être meilleur. Il n'y a pas de vanne sexuelle.
Oh,
il n'y a pas de vanne sexuelle.
Mon Dieu, dans quoi c'est-il en bas?
Allez, on termine sur ce qui touche de près ou de loin aux Avengers, puisque c'est le Avenging Spider-Man numéro 20, série que Bruno continue de lire malgré le fait qu'on le savate toutes les semaines.
Ah, la couverture est intrigante.
Et je continue à l'acheter après un numéro. Le précédent était un peu dispensable, hein, c'était un pass, ou un check-it. Celui-là, vraiment, c'est un gros bail. Un numéro donc écrit par Christopher Yost et dessiné par Marco Cecchetto. Déjà, c'est sublime ce que fait Marco Cecchetto sur ce numéro. Le pitch, c'est que depuis plusieurs numéros, on voit Superior Spider-Man qui essaye de rassembler plusieurs objets, des armes qui appartenaient au Sinister Six, de capturer certains de ses anciens ennemis pour je ne sais quel plan. Et là, en fait, il décide d'aller récupérer le caméléon qui est enfermé dans l'hélicarrière du Shield. Donc pour ça, il trouve une excuse pour revenir dans l'hélicarrière du Shield. Il rencontre Nick Fury Black. Et on a droit à une petite blague bien facile, mais assez amusante quand même.
Bien raciste.
Non. Après, on retrouve aussi les personnages de Secret Avengers, puisqu'on a Black Widow et Hawkeye, qui évoquent justement l'émission de Secret Avengers. Donc on voit bien que c'est quand même pas mal bien intégré dans l'univers Marvel actuel. Sauf que Superior Spider-Man avait un plan pour libérer le caméléon, et qu'en parallèle, il y avait des tueurs qui ont été envoyés par le KGB pour aller dessouder le caméléon pour pas qu'il révèle des secrets russes au Shield. Et donc là, après, c'est le gros bordel dans l'hélicarrière du Shield. Bon, qui est-ce qu'il y a dans l'hélicarrière du Shield? Donc j'ai déjà dit Hawkeye, Black Widow, on a quand même aussi Hulk, on a aussi Taskmaster, on a Superior Spider-Man, on a Nick Fury, Coulson, bon, ça va être le bordel. Et franchement, c'est cool.
Est-ce que l'hélicarrière s'écrase? Encore une fois.
Justement, il y a une blague aussi par rapport à ça.
Ah.
Mais non, grosso modo, c'est on a les mêmes personnages que les Secret Avengers, puisque Taskmaster fait aussi partie de l'équipe des Secret
Exactement,
Avengers.
Exactement, ouais. Et du coup, c'est vraiment bien connecté, et c'est surtout très agréable à lire, et très très beau. Ce que fait Marco Cecchetto, c'est sublime.
Mais alors,
donc, franchement, un gros bail.
Oui, et par contre, comme par hasard, il arrive au moment où il y a le KGB qui veut dessouder le caméléon. C'est The Parker Luck, quoi.
Bah, c'est justement, il le dit aussi, ça. Franchement, c'est bien écrit. Il parle du fait que même Peter, avec sa chance extrême, n'aurait pas eu il se serait pas passé ça. Et non, c'était vraiment cool, quoi.
Est-ce que les événements qui se sont passés dans le Superior Spider-Man 9 sont pris en compte aussi ou pas?
Ça, je peux pas le dire vraiment. En tout cas, on a pas d'apparition de la forme fantomatique de Peter. Donc, peut-être.
D'accord. Non, c'était une petite question pour savoir si c'était bien écrit en continuité aussi avec le titre Superior Spider-Man.
Ça a l'air.
Ok, on termine Marvel avec la sortie du 3e numéro de Wolverine et bien sûr, Nono.
Eh oui, de Wolverine. Paul Cornell au scénario, Alan Davis au dessin, Mark Farmer à l'ancrage. Donc, on reprend pile poil là où on s'était arrêté avec l'épisode 2, c'est-à-dire Wolverine avec Nick Fury, qui sont à la recherche de cette bande de super vilains du mec en fait qui contrôle un peu les esprits, et de ce fameux pistolet alien qui va un peu apparemment où bon lui semble. Wolverine s'était retrouvé avec une balle dans l'épaule qui ne sortait pas et... Donc il se retrouve dans un bar clandestin. Alors je sais pas si on l'a déjà vu dans l'univers Marvel, ce bar clandestin, mais c'est un bar en fait où se retrouvent plusieurs passionnés de super-héros. Un mec qui est spécialiste des batailles de super-héros, un mec qui écrit des comics, un mec qui fait des statistiques sur les super-héros, et la directrice de Damage Control, qui est la société qui nettoie derrière les batailles de super-héros.
Ah oh, putain, damage contrôlé de retour.
Ouais, 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 carrément. Et également Victoria Frankenstein, qui doit être la fille de Victor von Frankenstein.
Attends, c'est pas, c'était sûr que c'est pas Victoria Doom, là, la fille de... C'est pas celle qu'on voyait dans Hulk, Incredible Hulk, de Jason Aaron.
Je sais pas, j'ai pas lu Incredible Hulk. Mais Wolverine l'appelle Victoria Frankenstein. Donc, voilà. Il lui retire la balle, et en fait, la balle est vide. Elle contient simplement une espèce de truc un peu luisant et rose. Voilà, on sait absolument pas ce que c'est que cette balle.
Du lubrifiant.
Ouais, peut-être. Donc ils essayent de checker ça un peu, et finalement le pistolet qui était disparu refait surface, et s'ensuit une énorme baston dans un hangar. Et voilà, et ça avance pas des masses, l'histoire, honnêtement, ça avance pas beaucoup. On sait toujours pas qui est derrière tout ça. Ce qui est bon à savoir, c'est que c'est un arc en 4, donc on devrait avoir la réponse dans le prochain. Mais c'est voilà, comme je l'avais dit, parce que j'avais fait le premier numéro à l'époque, et je voyais pas l'intérêt de faire un relaunch de la série Wolverine pour continuer à faire du Wolverine classique. Là, on est clairement dans du Wolverine classique avec une enquête, des super vilains, voilà, des armures qui se battent, Wolverine qui se bat, etc. Donc je sais que l'avenir de Wolverine est un peu bizarre avec cette promesse de perte de facteur d'auto-guérissage. Auto-guérisseur, plutôt.
Guérisseur.
Voilà.
Auto-guérissation, donc, mais parlez bien.
Donc peut-être que on va en apprendre un peu plus à la fin de cet arc. Pour moi, c'est un check-it, parce que c'est pas... il se passe pas grand-chose. Les dessins sont toujours très chouettes. Je sais que Bruno, toi, t'avais fait le 2 et t'avais pas trop accroché au dessin.
Ouais, si, ça allait un petit peu mieux. Ça allait un peu mieux. Ouais. Faut s'y faire en fait à son style. J'étais pas un fan à la base, mais
c'est assez
inégal
quand même. Ça, faut le reconnaître. Il y a certaines cases qui sont bien faites, d'autres qui sont un peu moins bien faites. Donc pour moi, ça sera un check-it.
Ok. On va maintenant passer à notre partie digitale. Un seul titre de chroniqué dans cette partie, puisque c'est Bruno qui en a lu un. C'est la sortie du 2e numéro de Private Eye.
Oui, disponible sur le site internet Panel Syndicate. Donc Brian K. Vaughan au scénario, Marcos Martin au dessin, avec une colo de Munsa Vicente. On retrouve le personnage de P.I., ce soi-disant paparazzi, en fait, c'est comme ça qu'il se fait appeler, qui enquête sur l'identité des gens, sur ce qu'ils ont fait, et qui avait été engagé par une nana pour justement faire du background check sur ce qu'elle avait fait dans le passé, pour savoir si les gens allaient pouvoir déterminer quelle était son histoire avant. Sauf que cette nana, en fait, à la fin du premier numéro, se fait assassiner par un tueur mystérieux, et donc cet enquêteur, en fait, se retrouve un petit peu embêté quand il apprend que son client est mort. Là, il s'ensuit tout un tas de choses un peu rocambolesques. On a la sœur de sa cliente qui le connaît, qui le retrouve et qui essaye de le motiver pour essayer de trouver qui a tué sa sœur. Et vraiment, c'est vraiment super cool, quoi, à lire. Il y a toujours ce côté des gens qui se baladent avec des masques pour pas qu'on connaisse leur identité, puisque en fait, à cause de la toutes les données qui étaient sur Internet ont filtré partout, et du coup tout le monde sait tout sur tout le monde. Donc les gens sont obligés de se cacher derrière des masques. Et les dessins de Marcos Martin sont superbes. Voilà. Enfin, franchement, c'est un titre excellent, avec un gros twist à la fin plutôt cool. Et voilà quoi, à tester. Hein. Comme pour le premier numéro, vous choisissez combien vous voulez donner pour pouvoir le lire. Et ça mérite vraiment le coup d'œil.
Est-ce qu'il y a du turbo-média dedans, ou est-ce que c'est plus
pas
un
de turbo-média comic
classique ?
Comme dans le premier, c'est vraiment des pages façon à l'italienne, c'est-à-dire que c'est vraiment en format paysage.
Le format qui est généralement choisi pour le digital, puisque plus facile à lire sur tablette, pour profiter au maximum de l'écran.
Mais pas du tout d'animation. Dans les lettres à la fin, il y a Brian K. Vaughan qui répond, qui est très content parce que le premier numéro a eu beaucoup de succès, et qui indique que pour l'instant il n'y a pas encore de sortie papier prévue, qu'ils veulent vraiment continuer à tester ce mode de distribution. Même si il y a beaucoup de gens qui demandent à ce que ça sorte en version papier, parce que voilà, ça leur a beaucoup plu. Et ça continue bien son bonhomme de chemin. Et Donc franchement, un super bon titre, et j'espère qu'il y aura comme ça un numéro par mois, parce que c'est vraiment très bon.
On va maintenant passer à la partie indé. On commence avec Mister Onibuni qui va nous parler du 110e numéro de Walking Dead.
Déjà 110 numéros et toujours Robert Kirkman et Charlie Adlard donc, qui mènent le bateau. Alors, on s'était quitté sur un gros cliff justement avec encore une histoire de traître et peut-être qu'on allait assister à un gros retournement de situation et un renversement du statu quo. Et ben pas du tout au fait, Robert Kirkman s'amuse avec nous comme d'habitude, c'est-à-dire que au fait c'est un petit peu le oh putain, ah bah non, au fait rien, non au fait tout va bien, voilà. C'est un petit peu l'effet que ça fait au bout de 10 pages, tout rentre dans l'ordre. Mais en même temps, bon, pourquoi pas, hein, c'est bien aussi de jouer un petit peu avec nos nerfs et puis de faire en sorte qu'on s'attende pas forcément du tout à ce qui va se passer.
Tout dépend si c'est récurrent ou pas, en fait.
Ouais. Mais là encore, bon, c'était plutôt bien vu et ça m'aurait saoulé que ce soit, enfin, que ça parte dans la direction dans laquelle ça avait l'air de partir, puisque ça aurait donné lieu à une situation qu'on a déjà vue, donc bon. Donc finalement c'est pas plus mal qu'il ait laissé tomber là-dessus. Et au fait l'épisode est surtout centré sur Ezekiel, cet étrange individu avec un tigre qui dirige le kingdom, le royaume, encore une communauté très très particulière. Et au fait là il y a surtout une discussion avec Michonne qui démarre très mal et qui se termine plutôt bien. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. On a une preview, alors par contre une preview qui me fait très peur pour le prochain épisode. L'image du grand méchant là, Negan, avec un couteau rempli de sang et c'est marqué ouais, ne ratez pas le prochain épisode. Alors j'ai peur que Kirkman nous fasse encore, tu sais, un truc très gore pour le prochain, histoire de bien choquer le lecteur et qu'on se dise waouh putain, Walking Dead, ça déchire tout. Donc j'ai très peur de ça, j'espère qu'il va pas encore tomber dans ce travers de faire du gore à outrance et de la violence pour faire de la violence. On verra dans le prochain, mais là ça me fait peur. En tout cas sur cet épisode, bah voilà, un bon bail, hein, comme d'habitude, hein, c'est, comme je disais l'autre fois, un baïonnette.
non mais Céleste, elle a déjà eu du mal à passer la première fois.
Ouais, on va continuer justement avec Nono qui va nous parler d'une série indé, bien sûr, The Legend of Oz, The Wicked West numéro 1.
Ouais, donc au scénario Tom Hutchinson, au dessin Alison Borges. Donc je ne sais absolument pas si c'est une mini ou un ongoing, ce n'est pas précisé sur la couverture et j'ai pas l'impression que ce soit précisé ailleurs non plus. C'est sorti chez Big Dog Inc. Donc il y a une toute petite boîte de comics. Alors c'est bienvenue dans le monde d'Oz encore, parce que décidément Oz est très à la mode en ce moment depuis que Scotty Young a ressorti le monde d'Oz chez Marvel. J'ai l'impression que du Oz on en bouffe très très souvent.
Surtout depuis l'annonce qu'il y avait un film en préparation, ouais, par Sam Raimi, et depuis qu'il est sorti, ouais, effectivement du Oz il y en a partout.
C'est clair. Encore une histoire sur Oz, là traitée un peu différemment. On a une Dorothy Gale qui est beaucoup plus âgée, qui doit avoir la vingtaine, 20-25 ans. Toto est un cheval.
Non, Toto n'est pas un cheval, tu racontes très mal la blague.
Alors c'est Toto et Dorothy qui vont au Texas. Une tornade, ils se retrouvent dans le pays d'Oz.
C'est qui monte l'autre?
Non. Et donc, en fait, ça se passe un peu à une époque Far West que Dorothy a des éperons rouges, a des flingues, etc. Donc, on est complètement pas du tout dans le Oz de Frank Elbaum de base. Donc, elle se balade, elle rencontre un épouvantail, petit clin d'œil. Malheureusement, c'est un vrai épouvantail. Elle se retrouve dans un saloon. Et là, forcément, ça va commencer à mal se passer. Quelqu'un, apparemment le gros méchant de l'histoire, le gros méchant de la ville, va la voir pour lui dire que c'est une voleuse parce qu'elle a des éléments sur elle qui ne sont pas à elle. Et en fait, elle se rend compte que la route de briques jaune a disparu, parce qu'en fait, la route de briques jaune, c'est une route de briques en or, et que tout le monde a pris les briques pour se faire de la thune. Voilà.
Ouais.
Elle tue le mec, et en fait, tous les gens qui sont dans le saloon, ce sont les fameux Flying Monkeys.
D'accord.
Et voilà, il y a un mec qui arrive, qui veut l'arrêter. C'est pas hyper passionnant. Ça change un petit peu. Pour moi, ça sera un check-it moins.
Est-ce que c'est beau?
Bah, $3.50, effectivement, ça m'a l'air un petit peu juste pour $3.50, quoi.
Ouais, ouais. C'est, alors, c'est beau, on voit que c'est de l'indé. Disons que
ça sent mauvais.
Ouais, c'est pas le bon côté de l'indé. Ça reste agréable à regarder, mais c'est pas ça voilà.
C'est pas une version Zenscope sexy style quoi.
Bah la nana, on voit qu'elle a des formes, il y a des gros plans sur ses fesses, voilà, ça reste un peu dans le Zenscope, mais c'est pas hyper. Il y a beaucoup de clins d'œil à Oz. On se demande où ça va. Est-ce que c'est une autre Dorothy Gale? Est-ce que c'est une autre histoire d'Oz en parallèle? Je sais pas.
Bah, ça sent juste la grosse exploitation de licence encore une fois.
Oui, je pense clairement que c'est ça. J'irai voir le numéro 2 juste pour savoir où ça va. Voilà, c'est un check-it moins.
On va continuer avec une sortie chez Image, ça s'appelle Chin Music, rien à voir avec le coup de finition de Shawn Michaels.
Voilà. Je savais que t'allais le faire.
C'était obligé, j'étais obligé de la faire.
Enfin, Swing Chin Music d'ailleurs, si on le dit.
Oui, c'est des Swing Chin, ouais, bien sûr. C'est écrit par Steve Niles, dessiné par Tony Harris, c'est un projet dont nous avait pas mal parlé au LCF, vous aurez très bientôt son interview disponible sur le site. J'en profite en même temps pour faire un petit peu de promo. Hein. Et eh bien, je dois dire que c'est très 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 décevant. Malheureusement, j'en attendais beaucoup. Steve Niles au scénario, Tony Harris au dessin. Normalement, déjà, ça se vend tout seul. Eh bien là, malheureusement, on cherche un petit peu à comprendre ce qui se passe. Je suis pas le seul à l'avoir lu. Oui. Bruno aussi.
Oui, oui, bah j'ai rien compris en fait. Même si la partie graphique, moi, j'ai trouvé ça quand même plutôt correct. Et même si un petit peu plus grossier que d'habitude pour du Tony Harris. Mais ça reste assez joli quand même.
Comme tu l'as dit, c'est plutôt correct. Mais le problème, c'est qu'avec du Tony Harris, on n'attend pas juste du correct. On attend du somptueux, du merveilleux. On attend de pleurer des larmes d'éblouissement tellement c'est beau. Ben non, c'est pas forcément le cas. Il a un ancrage assez grossier, je trouve. Des très gros traits. Bon, faut noter qu'il s'est colorisé. Donc peut-être que ça explique aussi pas mal de choses.
Ouais, peut-être. Moi, c'est vraiment côté scénario que j'ai trouvé que ça pêchait. Déjà, ça se lit en 2 minutes. Hein.
Oui, alors il y a très très peu de texte. On commence avec un homme assis à son bureau, en train de graver des symboles assez étranges sur une balle. Et on va assister à toute une scène où il commence à faire un rituel. Alors, on a une sensation presque de turbo-média mis en forme papier, puisque l'on voit une continuité dans les cases. Si ça avait été en format digital pur avec les cases qui apparaissent au fil des avancées de page, peut-être que ça aurait été encore mieux. Parce que là, enfin, on a vraiment tout ce déroulement, c'est très joli, mais presque dommage d'être limité sur une simple page. Et donc cet homme, après avoir gravé sa balle, va tirer comme ça par sa fenêtre. On sait pas
donc
trop.
C'est bien une balle de revolver ou de fusil, c'est
oui,
pas
oui,
une balle
de revolver. Oui, oui, une balle de
en fait,
revolver.
Il a fait des incantations pour soi-disant peut-être de faire un tour de magie par rapport à cette balle de pistolet quoi.
Un tour de magie. J'adore. Et puis ensuite, on se retrouve quelque part au Moyen-Orient puisqu'on voit des gens avec des turbans, des chameaux, des choses comme ça. On comprend pas trop non plus et on a un espèce de 10 heures de bonne aventure qui est poursuivi par des créatures assez étranges. Il s'envole, il se fait défoncer, il devient une espèce de squelette. On ne comprend rien, franchement. Enfin, on arrive à comprendre mais c'est quand même super super nébuleux. Et cette espèce de squelette va rencontrer Elliot Ness. Et c'est là qu'on comprend que nous sommes dans les années 30. Et voilà, c'est grosso modo tout ce qu'on peut en dire, hein. On a une famille de mafieux à la fin qui veut échapper justement à Elliot Ness.
Ouais ouais.
Dont le chef, en tout cas celui qui parle, a un sort bien malheureux qui lui arrive et on arrive à comprendre avec cette dernière page le début de l'épisode. Même si on n'a aucune certitude, hein, à nous de tirer les propres
conclusions.
Non, aucune certitude.
Mais c'est surtout en fait on a l'impression qu'il manque encore quelques pages pour vraiment accrocher le lecteur parce qu'au final. Il y a pas vraiment de cliff, enfin ça te donne pas envie vraiment d'aller voir la suite et il y a trop de mystères pour commencer déjà à essayer de faire le puzzle quoi. Donc,
Ben, j'ai envie de dire typiquement une série qui ne marche que sur le nom de ses créateurs et ben, j'ai bien peur que ça ne suffise pas. En tout cas à mon goût ça ne suffit pas. Je ne sais pas encore si j'irai voir le 2.
Ah, moi j'irai voir le 2 quand même par curiosité parce que mine de rien la partie graphique moi ça m'a quand même relativement plu. Et puis bon voilà quoi, j'ai envie de comprendre un peu où il veut en venir, mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçu, je m'attendais à quelque chose peut-être un peu mieux quoi.
Bah, irais-je redépenser 3 $ pour ne pas comprendre plus et pour lire ça toujours en 2 minutes?
Ouais,
Je sais pas,
c'est la
tu vois,
question.
là
Check
c'est
it,
vraiment
hein.
la question financière.
Ouais.
Est-ce que le prix est assez intéressant par rapport au contenu? En tout cas, pour ce premier numéro, clairement non. Et si le deuxième est dans le même état, ça va vraiment me faire regretter mon achat. Donc, je suis encore très réservé. Pour moi, c'est un check it, moi. Franchement, je suis désolé, mais j'en attendais beaucoup de cette série et je suis fortement déçu.
Ouais, moi c'est un check it.
On termine la partie indé avec Archer and Armstrong numéro 0, Bruno.
Oui, bah c'est la première fois que je lis un Archer et Armstrong. Là, c'est un numéro 0. Je me suis dit, ah, pourquoi pas, c'est peut-être la backstory des personnages. Effectivement, ça raconte bah, comment le personnage de Archer est devenu immortel. En fait, bon, c'est un duo, Archer et Armstrong. Il y a un gars qui est immortel et puis l'autre, c'est son acolyte qui a l'air d'avoir de le... Enfin, c'est un petit peu un duo avec pas mal d'humour en fait. Ils ont des aventures, ils doivent sauver le monde. Et là, dans ce numéro, justement, on voit qu'en fait le mythe de Gilgamesh, c'était en fait avec Archer. Et donc, ils réinterprètent le mythe de Gilgamesh. Et donc, ça, c'est franchement, ça, c'est assez correct. Les dessins sont vraiment très bons. La partie graphique est cool. Par contre, bon voilà, pour un numéro 0, au final, ça m'a pas relativement donné envie de découvrir la série. C'est un peu trop. Peut-être qu'il fallait avoir lu les épisodes précédents,
Bah de toute façon, oui, hein, c'est un numéro zéro comme les numéros zéro de DC. Hein.
Ouais, mais il y en avait certains, tu vois, qui faisaient le job, qui donnaient envie de se lancer dans une série. Là, ça a attisé ma curiosité, on va dire, mais bon, voilà. Mais en tout cas, il y a pas mal d'humour dans les dialogues. Et la partie graphique est correcte. Voilà, j'en attendais peut-être un peu plus. Donc pour moi, c'est juste un check-it.
On va maintenant terminer nos reviews de la semaine avec la partie DC. On commence avec toi, Nono, qui va nous parler du Green Lantern Corps numéro 20. Très mauvais choix de lecture, finalement, cette semaine.
Mais carrément, surtout, le pire, c'est que je ne lis jamais de Green Lantern Corps. Le seul numéro que je lis de l'univers Green Lantern, c'est le Green Lantern. Et là, je sais pas, cette semaine, je me dis, tiens,
Mais
ça fait
qu'est-ce qui
longtemps que
t'a
j'ai
pris?
pas lu, mais ouais. Et bien mal m'en a pris, hein, de lire ça. Donc, au scénario, Peter G. Tomasi, au dessin, Fernando Pazarin, et à l'ancrage, Scott Hanna.
Quel bel accent espagnol.
T'as vu ça un petit peu, mais c'est l'habitude.
Marqué.
Donc, bah oui, bien mal m'en a pris, tout simplement parce que cet épisode est l'épilogue de Wrath of the First Lantern, qui spoil la fin, qui aura lieu dans le Green Lantern qui sort dans 15 jours.
Bravo.
Donc voilà,
Bravo DC.
donc, ouais,
Bravo
bravo
DC. On vous
DC.
applaudit.
Voilà, donc
C'est
en
comme
plus
ça que
il...
vous allez remonter les ventes d'essai en continuant de faire des boulettes après chaque semaine, on a des boulettes.
Voilà, et
C'est
le
quand
pire
même
c'est
super ballot
qu'il nous
là.
la montre la fin, il nous la redessine, le truc final est redessiné dans cet épisode. Donc voilà, c'est très très dommage. J'ai trouvé ça, j'ai été complètement... Quand j'ai lu ça, je me suis dit, eh merde.
Mais
Bon bah pour
alors en fait,
justement éviter de spoiler, tu ne raconteras pas
non,
trop trop l'histoire
non,
justement.
non,
Mais
non.
le pire, juste un truc, si j'ai lu les previews, tu sais, les 3 premières pages qui donnent sur Internet. Et en fait, le spoil, il est dans les 3 premières pages en plus,
Ah
donc...
oui, complètement, oui. Le spoil intervient à la troisième page, pour être précis.
Donc c'est un peu craignos.
Voilà. Mais de toute façon, au contraire, je pense que ça vendra ce numéro. Dès que ça spoil, les gens vont aller voir. Tu leur dis, vous voulez savoir la fin, avant que ça sorte dans Green Lantern, allez voir Green Lantern Corps. Ils vont te jeter dessus.
Bah là voilà la nouvelle technique de vente de
Eh oui.
DC.
Ouais.
Le gros problème, c'est quand même que Geoff Johns met fin à son run de quasiment 10 ans de Green Lantern avec le dernier épisode de Green Lantern qui ne sort que dans 15 jours, et c'est spoilé.
Oui, c'est con pour lui surtout, en fait.
Bah c'est bien la preuve que DC fait de la merde,
Oui,
et
bah
que
oui.
l'éditeur de Green Lantern a encore chié dans la colle.
Ouais, là clairement c'est une énorme erreur parce que bah ouais voilà c'est
Ou bien alors il y a quelque chose de plus dans ce qui sort dans l'épisode de Geoff Johns, on verra.
bah j'espère parce que là j'ai même pas envie d'aller le voir quoi, je connais la fin,
Bah, c'est obligé qu'il y ait plus parce qu'au final ça reste une case qui dévoile un élément très important, mais on ne sait pas du tout comment ça se passe.
On se doute
Mais
que de toute façon ça va terminer à peu près correctement, que l'univers ne va pas être détruit. Ça oui, mais enfin je veux dire, on n'a pas besoin de lire un spoil pour le savoir. Mais quand même, enfin je sais pas, là il y a quand même un gros problème de planning éditorial qui n'est pas fait. ou qui en tout cas qui est mal fait, et c'est franchement n'importe quoi. Alors pendant des mois, enfin pendant en tout cas 2-3 mois d'affilée, on nous a sorti 3 titres Green Lantern la même semaine, c'était beaucoup trop. On nous le remet à un titre par semaine comme ça devrait être, et pour faire des conneries. Je sais pas, enfin, faut quand même se poser des questions. Faudrait qu'ils commencent à s'inquiéter un petit peu, parce qu'ils sont rendus à peine à 25% dans le top des ventes. Oui, rappelons qu'il y a 6 mois, ils étaient à 30-35. Je sais pas, s'ils continuent de faire comme ça, ils continueront de plonger, clairement.
Bon. Ouais. Et bon, clairement, la suite de l'histoire n'est pas hyper passionnante. Ça met un terme à l'histoire de Guy Gardner, parce que l'épisode est complètement centré sur lui. Donc, vu que je n'ai pas lu d'autres Green Lantern Corps depuis ce relaunch, du coup, je ne sais pas si d'habitude c'est également centré sur lui ou si on voit d'autres persos.
Mais là,
voilà, bah, clairement, c'est les trois quarts de ce numéro sont centrés sur lui. Donc, il décide de prendre quelques mois de vacances sur Terre et il se retrouve dans toutes les situations basiques d'un terrien classique. Voilà. Honnêtement, ce numéro n'est absolument pas passionnant. Je dirais que c'est un... parce qu'il me semble que c'est aussi la fin du run de Tomasi.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc je dirais que au jour d'aujourd'hui, c'est un pass. Dans 15 jours, ça sera un check-it plus. Voilà. Honnêtement, faites-le comme ça, ou alors achetez-le maintenant, mais ne le lisez pas.
Ah,
attendez,
ça, je
voilà. Bah oui, je sais bien, mais bon. Ou alors attendez 15 jours, attendez que le Green Lantern soit sorti pour acheter celui-là. Parce que voilà, ça conclut le run de Tomasi, donc c'est pas non plus complètement inutile. En plus, on a une très belle cover d'Andy Kubert. Je trouve qu'elle est très chouette, la cover. Mais, voilà. Clairement, hein, pour l'instant, ne le lisez pas. Sauf si vous voulez vous spoiler la fin de cet arc, de cette épopée Wrath of the First Lantern.
Donc il y a fort à parier que l'épisode de Green Lantern, je ne sais plus quel c'est, qui sortira la semaine prochaine, sera du même acabit, c'est-à-dire...
New Guardians, peut-être.
Ouais, sûrement New Guardians ou Red Lantern, je ne sais pas, qui spoilera sûrement ce qui s'est passé pour la fin de Green Lantern, qu'on aura dans 15 jours, donc... Restez sur vos gardes. S'il y a marqué épilogue sur la couverture, ne le lisez pas.
Ouais. Ou demandez à votre comic shop, qui l'a certainement lu, si ça spoil ou pas, quoi.
Il y a un petit truc rigolo sur Bleeding Cool. Ils ont publié une image où, en fait, ils ont mis un gros carré blanc sur la case et tu peux découper ça et le mettre dans ton comics et tu peux lire le comics sans avoir le spoil.
Enfin, pour arriver à le mettre
pour
dans le comics sans regarder la case, déjà, il va falloir être balèze.
Tu demandes à ta copine ou à ton copain de le faire pour toi.
Voilà.
elle va bien se gourer, tu vois, elle fout ça sur une publicité. Le truc n'a rien à voir.
On va le mettre sur la seule bonne case de l'épisode, tu sais. Ouais.
Donc vous êtes, quelles sont vos notes à vous ?
Ah bah,
il y a que toi qui l'as lu. Hein.
Ah, il y a que moi qui l'ai lu. Je croyais que vous l'aviez lu, parce que quand j'ai parlé de la suite de l'histoire.
Ah, c'est un méga bail.
Ah, mais c'est justement, moi, au vu de ce que tu as dit, j'ai l'impression qu'on nous refait l'épisode où... Enfin, après, je ne sais pas. Hein. Je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas certifier. Mais le fait que Guy se retrouve sur Terre, etc. J'ai un peu l'impression qu'on revoit l'épisode où il avait perdu son anneau et qu'il avait été renvoyé sur Terre.
C'est ça, où il a passé des vacances, etc.
Ouais, après, on l'a pas lu, donc on sait pas.
Oui,
peut-être qu'il y a la conclusion par rapport à ce fameux alien qui était le premier alien qu'il avait combattu quand il était Green Lantern et qu'en voulait à sa famille. Donc ça, je sais pas, j'ai pas lu.
Voilà, ce n'était qu'une impression.
Ouais, c'est hyper décevant, hein, clairement. C'est, tu te dis tout ça pour ça.
D'accord.
On va passer à la suite du programme. C'est la sortie du 20e numéro de Batman, scénarisé toujours par Scott Snyder et des dessins de Greg Capullo, ancré par Danny Mickey. On a la fin de l'arc avec Clayface, arc qui s'était donc entamé dans le dernier épisode. C'était un arc en deux simplement, c'est rafraîchissant d'avoir un arc assez court. Une histoire plutôt intéressante qui nous permet de nous recentrer un petit peu sur le personnage de Clayface dans cet univers New 52. Un Clayface qui a changé, un Clayface qui a muté. Plutôt intéressant, bon bah tout est résolu, hein, j'ai envie de dire. Pas de grosses surprises pour cet épisode. Un Batman qui arrive à se sortir d'une façon assez drôle du piège que lui tendait Clayface, c'est-à-dire à partir du moment où il le touche, il est capable de prendre l'ADN de quelqu'un et donc de révéler qui a sous le masque. La façon de s'en sortir est assez drôle. Bon, voilà. Ensuite, on a le droit à un backup, comme la dernière fois, la suite et fin aussi de ce petit backup qui était une histoire en deux épisodes, hein. Pareil, scénarisé par James Tynion IV et dessiné par Alex Maleev, où Batman faisait équipe avec Superman. Superman qui était venu le voir pour essayer de le réconforter un petit peu suite à la mort de Damian. Un arc où on s'était retrouvé dans une espèce de d'incantation magique avec une, en tout cas plutôt satanique, même avec des démons qui sortaient. Et bah bien sûr, qui dit magie dit problème pour Superman. Tout est bien qui finit bien. Voilà. Un épisode sympathique. Un bail peut-être pas. Mais en tout cas, c'est un bon check-it. Moi, j'ai plutôt apprécié la lecture. Et comme je dis, c'est rafraîchissant d'avoir une histoire en seulement 2 épisodes. Sachant que la prochaine, ça va durer 11 numéros. Puisque ce sera le début de Zero Year.
Zero Year.
Ouais. Bah néanmoins, moi, ça m'intéressait pas plus que ça. Et j'ai pas lu cette seconde partie pour cette raison. En fait, tout ce que je demande, c'est que, qu'importe au fait la longueur, mais pourvu que l'histoire soit bonne, et là, franchement, ça m'intéressait pas plus.
Ben non, mais ce qui est plutôt bien, c'est d'avoir une histoire courte, quoi. Comme je dis, c'est vraiment ce sentiment de pas avoir à attendre 3-4 mois pour une histoire aussi simple. Là, on a vraiment, tu en parlais la dernière fois, ce sentiment d'être un petit peu dans un épisode du dessin animé Batman, notamment ouais. Avec la présence de Clayface. Et ben, voilà, c'est ça que je trouve rafraîchissant, c'est qu'on a du Snyder qui nous fait quelque chose de simple pour une fois.
Par contre, pour l'avoir feuilleté, c'est super beau.
Ah oui, c'est très beau. Par contre, il y a pas de doute, c'est très très beau.
Moi, je trouve qu'il est encore mieux qu'avant, là, Capullo. J'ai préféré.
On va passer à l'autre série Batman de la semaine, c'est le Batman et Robin numéro 20, Bunny, justement.
Ben justement, alors oui, alors un Batman intitulé justement Batman and Red Hood maintenant, puisqu'on est dans cette série d'épisodes où, au fait, je pensais un petit peu qu'on allait nous parler de Red Hood. Alors Peter G. Tomasi est au scénario d'ailleurs, mentionnons-le, et puis Patrick Gleason et Cliff Richard sont au dessin. Avec l'ancrage de Mike Gray et de Mark Irvin, voilà, comme ça j'ai fait le tour. Donc je pensais qu'on allait nous parler de Red Hood, et un petit peu comme Scott Lobdell l'avait très brillamment fait dans le numéro 19 de Red Hood and the Outlaws. Et au fait, c'est beaucoup plus un épisode centré, encore une fois, autour de Damian. Au fait, là, la série d'épisodes qu'on va avoir, c'est clairement Batman qui fait le deuil de Damian et qui explore à chaque fois une facette différente de sa phase de deuil. Et,
Alors, je me permets juste de t'interrompre une petite seconde. C'est bien précisé dès l'entrée du comic sur la première page que ça se passe avant le numéro 19.
Oui, oui, oui. Mais
voilà, donc quoi qu'il arrive, les événements ne sont pas référencés et c'est précisé. Donc, oui. Pour une fois qu'il y a un boulot d'éditorial ouais. Chez DC qui est à peu près correctement fait.
Ouais, bah là de toute façon, ça aurait pas été possible vu que en fait, ça se passe même avant l'incident qui arrive à Red Hood. Donc voilà. Donc c'est.
Ah non, après. Ça se passe après.
Ça se passe après. Ouais.
Puisqu'il lui parle de l'antidote, etc.
Il a été soigné.
Ah d'accord. Ah bah ok, bah alors j'ai pas compris ça, parce que je me dis, c'est pas possible qu'il ait... Alors donc, ok, d'accord, bon bah alors c'est encore un truc qui aura été soigné en 2-2 et sans qu'on voit que ce soit, quoi. Ok, d'accord, magie, quoi. Donc, je repars sur ce que je disais, Scott Lobdell nous avait fait vraiment un épisode autour de Red Hood, là, c'est pas le cas, malheureusement, et c'est ce que j'attendais, donc bon, c'est dommage, du coup, j'ai pas eu ce que je voulais, et... L'épisode est assez anecdotique, je trouve. Hein.
Je suis pas d'accord.
Moi non plus.
Bah moi j'ai trouvé ça super anecdotique et je déteste quand ça se part comme ça, comme à la fin là, où ils se disputent, ils se mettent sur la gueule. Je trouve que ça fait limite télé-réalité où pour un oui pour un non, on va se disputer. On voit ça 36 fois en ce moment chez les super-héros et ça commence à me saouler. Je trouve ça navrant, quoi, même.
Ouais, voilà, ce sont toujours les conséquences de Death of the Family.
C'est vachement mérité, hein, la baston, là, parce que... Bah, en fait, je trouve ça poussif. Batman essaye de faire le deuil de Damian, il fait pas le deuil, hein. Ça fait 2 numéros où, en fait, il essaye de trouver les moyens de faire revenir à la vie.
Bah, ouais.
Et
Excuse-moi Bruno, je te coupe, mais je trouve que Tomasi s'adresse vachement mieux, enfin en tout cas adresse vachement mieux la mort de Damian et ses conséquences sur l'esprit fragile de Bruce... Que Scott Snyder le fait.
Ah oui, bah Scott Snyder, il fait. Je sais même pas d'ailleurs s'il en parle vraiment.
Il y a encore une référence à ça dans le Batman numéro 20. Hein. D'ailleurs, je comprends pas trop comment Batman ne se grille pas tout seul devant Commissaire Gordon, qui est quand même loin d'être un con. Mais bon, peut-être que le Commissaire Gordon sait très bien déjà qui c'est et ferme les yeux, tout simplement.
Ouais, bah, de toute façon,
il découvrez la scène vous-même dans le Batman, mais voilà.
Ouais. Mais d'ailleurs, il l'avait su hein, avant, et je sais même pas d'ailleurs comment il a pu oublier. Enfin bon, je sais pas.
Parce que New 52.
Oui, je pense que c'est tout. Mais ouais, enfin voilà, moi j'ai trouvé ça poussif et ça m'a pas du tout intéressé.
Que penses-tu du retour de Carrie Kelly Bruno?
Moi j'ai trouvé ça intéressant après parce que le personnage est cool, enfin
moi je la déteste.
C'était la prof de théâtre de Damian. Elle vient, elle ramène la thune que Bruce lui avait donnée parce que bah elle voulait parler à Damian et elle comprend pas pourquoi elle peut plus le voir. Et t'as un Bruce complètement insupportable qui la renvoie chier. Et bah c'est une nana qui a l'air intelligente, assez maligne et voilà, il y a des bonnes petites scènes avec justement Alfred qui a quand même aussi un passif avec le théâtre. Donc non, j'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit et moi j'ai bien aimé cette partie-là.
Oh, moi ça m'a fait hyper chier quoi. 10 pages là-dessus, je me suis dit oh là là, ça
Bah,
commence
pour moi,
bien.
c'est une très bonne surprise, étant donné que bon, on avait ce petit clin d'œil dans le dernier épisode avec Harry Kelly. On s'est dit, ça y est, bon, ils vont nous faire un petit clin d'œil à justement Dark Knight Returns et compagnie. Et en fait, je pensais que ça aurait été juste pour un numéro. Et finalement, non, Tomasi décide de l'installer dans l'histoire.
Ouais.
Et c'est peut-être pas si mal que ça.
Ah bah moi
Ouais,
ça me
parce que
saoule
là, il
autant
nous
que.
tease son retour plus tard, donc.
Oh putain, ça me saoule autant que Harper Row. Moi, c'est vraiment. Alors là, ils nous placent tous des personnages féminins.
Ouais, mais tu vois, mais avec ce personnage, je trouve qu'en plus, il enrichit la personnalité de Damian, qui maintenant, il a beau être mort, en fait, on apprend des choses sur son passé, sur ce qu'il faisait, et ça le rend d'autant plus humain, quoi. Et
Oh, c'est
moi, je trouve
beau.
ce personnage est important.
Mais tu vois, Harper Row, on l'a déjà vu dans 3 épisodes, et je la trouve, enfin, je trouve qu'Harry Kelly mieux développé en 2 fois 10 pages, on va dire, donc un épisode complet, que Harper Row a été
Ouais,
développé
je
en
suis
3
d'accord
par
avec toi,
Snyder.
Steve. Je suis
Je
d'accord
la
avec
trouve
toi.
déjà beaucoup plus attachante, on en sait presque plus sur elle que sur Harper Row. Presque, hein, je dis bien parce que bon, on a quand même tout le passif d'Harper qu'on a pu voir au fil des 3 épisodes, mais voilà, bon, de toute façon, on se doute bien que ce personnage-là ne deviendra jamais Robin, trop
Oui,
évident.
bah oui, bien sûr, mais moi elle me gonfle déjà, quoi. Enfin, c'est le côté, ok, Bruce, bah c'est une tête de mule et le mec est pas content, mais bon. Il a de bonnes raisons, quoi. Et j'ai juste envie de lui mettre des claques. Alors,
Elle est
ok,
l'amie de
elle, elle
elle
lui.
était l'amie de Damian.
Oui.
Et j'ai l'impression, en tout cas, avec cet épisode-là, le chemin qu'on prend, c'est qu'elle va devenir peut-être l'amie d'Alfred.
Ouais.
Puisque Alfred a perdu son ami qui était
Bah,
Bruce,
Bruce.
finalement.
Ouais. Ouais,
Donc,
ouais.
voilà.
Bah, c'est.
Tomasi, comme d'habitude, nous gère les relations familiales excellemment bien.
Ouais, et pareil pour bah, l'arrivée de Redwood et puis ce que Bruce en fait cherchait à faire en faisant une mission avec Redwood, j'ai trouvé que c'était bien bien amené et on comprend vraiment pourquoi Jason Todd s'énerve à la fin parce que ça j'aurais été à sa place, ça m'aurait énervé aussi. Donc
Et qu'il arrive à s'aliéner même un mec comme Jason Todd, qui est quand même une tête brûlée, qui rentre dedans, et qui finalement s'apprête presque à lui pardonner les cachotteries
Ouais.
qu'il y a eu dans Death of the Family parce qu'on a eu une bonne baston contre des terroristes, même si d'ailleurs Batman emploie des méthodes encore une fois très très limites, puisqu'il en fait des handicapés. On ne dit pas pourquoi, vous découvrirez
Ouais,
ça à la
c'est un
lecture.
peu hardcore, ouais.
C'est quand même un petit peu hard de la part d'un Batman. Tu
Il est
sens
énervé.
que
Il voit
Jason est
rouge.
prêt à presque à lui pardonner et ce que Bruce lui fait après, c'est juste dégueulasse, quoi.
Et sur l'avant-dernière page, j'ai adoré la scène, quoi.
Mais
Voilà. Et après, la
justement,
dernière, par contre, elle sort de nulle part. La dernière page, par contre, elle est très mystérieuse et
la dernière page m'a intrigué aussi. Ouais, moi,
justement,
ça
moi
me
je
donne
trouve
envie de
qu'on
voir la
a
suite.
un Bruce de plus en plus immature et on a l'impression qu'il a rajeuni au fait, mais pas dans le bon sens dans sa tête avec les New 52 et
Elle a perdu un fils, hein.
oui d'accord, il a perdu un fils, mais là bon.
Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est que va donner Zero Year. En fait, est-ce que Zero Year va être vraiment centré uniquement sur le passé ou est-ce qu'on aura des conséquences dans le présent et quelque chose qui va avancer dans le présent? Et surtout, que vont donner les titres qui gravitent autour de Batman et notamment Batman et Robin si toute l'histoire de Batman s'arrête ou en tout cas se met en pause entre guillemets pendant 11 mois?
Non, à mon
Ah,
avis, il y
ils ont
aura des
promis que ce serait pas
conséquences.
des tie-in, hein. Ils ont promis qu'il y aurait pas de tie-in,
Oui, ce
donc.
sera pas des tie-in. Donc justement, comment Bruce va avancer si pendant 11 mois dans la série Batman, on reste un peu bloqué sur une histoire du passé?
Ouais, non, mais ça, je n'y crois pas. Moi, je pense qu'il y aura à la fois le passé et le
Bah,
présent.
ça changera rien parce que de toute façon, les autres séries en dehors de Batman avancent et Batman est un petit peu dans son coin depuis le début. Quand tu regardes les arcs qu'a fait comment dire Snyder avant, Snyder faisait un petit peu ce qu'il voulait sur Batman et puis les autres avançaient dans leur coin.
Ouais, mais enfin, en tout cas pour Batman et Robin, bon, même si elle change de titre en ce moment chaque mois,
Ouais.
ça reste pour moi la série majeure à lire avec Batman, comparé à toutes les autres, les Detective
Oui,
Comics
bien
ou les
sûr.
Dark Knight
Mais
sont dispensables.
ils ont toujours fonctionné indépendamment si tu regardes bien. En
Ah,
fait, Batman et Robin, c'est plus proche de Batman Inc.
Batman et Robin étaient plus proches de Batman quand même, je trouve. Puisqu'on avait toute la psychologie de Bruce qui était vraiment traitée là où Snyder essayait
Ouais.
éviter de s'en embarrasser. Il
Bah d'ailleurs,
s'intéressait qu'à Batman en lui-même.
l'épilogue de Death of the Family était dans Batman et Robin d'ailleurs. Donc, enfin bon,
Ouais,
un bail pour moi.
on va avancer, ouais. Moi aussi un gros bail vraiment série immanquable.
Bah, moi, c'est à la limite du pass, quoi. Vraiment petit check-it, au fait. Ah, j'ai bien aimé, au fait, le personnage qui nous est teasé à la fin, là, qui pourrait revenir. Ça pourrait être intéressant.
Que fait-il là? Pourquoi? On verra. On termine la partie d'essai avec la sortie du Justice League of America numéro 3, Bruno.
Oui, Justice League America numéro 3, toujours Geoff Jones au scénario et David Finch au dessin. C'était une cover What the Fuck hein, qui arrive un petit peu en retard.
Ouais, bah de toute façon, on avait bien Aquaman 19 la semaine dernière, hein.
Voilà, c'est ça. Donc il y a un traître parmi la Justice League of America. Bon, comme les autres covers, en fait, c'est un petit peu mensonger, on va dire, cette couverture. Qu'est-ce qu'on a dans ce numéro? On en apprend un petit peu plus sur justement ce syndicat du crime qui a construit des versions un petit peu robotiques de la Justice League avec Superman, Wonder Woman et Batman qui s'en prenaient à la GLA. On voit le combat, comment ça se passe, est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir, voilà. Donc c'est un petit peu. On a ça. Après, d'un autre côté, on en apprend un petit peu plus aussi sur Stargirl, qui en a vraiment marre un peu qu'on la prenne juste pour la nana, genre un peu la pom-pom girl qui doit représenter la GLA. Et donc il y a Amanda Waller qui connaît des choses sur elle et qui la menace un petit peu de révéler des informations si elle ne fait pas ce qu'elle lui dit. Donc je pense que Stargirl va pas rester très longtemps amie avec Amanda Waller. En parallèle, on a aussi des choses en rapport avec Green Arrow qui essaye de réintégrer l'équipe. Donc ça avance bien, ça avance bien. Il y a aussi Steve Trevor qui essaye de trouver un plan pour justement découvrir qui se cache derrière ce syndicat du crime. Et donc voilà, bah c'est vraiment très plaisant à lire. Au niveau des dessins, bon c'est correct, c'est du bon David Finch, je trouve. Il y a une case qui m'a posé problème avec où j'ai trouvé qu'il y avait une erreur dans le dessin. Donc ça, je pense que ça m'a paru très bizarre. Mais sinon, à part ça, voilà, c'est un titre plaisant. Je
Ouais,
sais pas ce que
bah.
t'en as pensé, Nono.
Bah écoute, un peu comme toi en fait, j'avais lu le premier, j'avais pas lu le 2, et là j'ai rattrapé mon retard, donc j'ai enchaîné le 2 et le 3. Et effectivement, le premier n'avait pas laissé une très très bonne impression, mais en lisant les deux d'affilée, je suis vraiment rentré dans l'histoire. Et les relations qui vont pouvoir se tisser entre les différents personnages sont vraiment très très sympas. On voit qu'ils sont en train d'échafauder un plan pour admettre Catwoman qui toujours considérée comme une vilaine aux yeux de la population dans l'équipe. Et ouais, j'ai vraiment hâte d'aller voir la suite, en fait.
C'est marrant parce que moi justement cet après-midi j'ai essayé de rattraper le 2 que j'avais justement en retard du mois dernier que je n'avais pas encore lu. J'ai rattrapé le 2, j'ai pas eu le courage de me mettre au 3.
Ouais,
Donc
bah.
finalement tu vois je l'ai pas lu cette semaine parce que je sais pas, j'arrive pas à rentrer dans cette série, je n'accroche pas.
Pareil. Moi, c'est même le 2 que j'ai pas eu le courage encore de lire. J'ai feuilleté les 2 et 3 et franchement, au vu de ce que vous en dites et au vu de ce que je vois, ça m'intéresse pas plus que ça. C'est vraiment un truc dire que c'est écrit par Geoff Jones, c'est que c'est censé être un truc quand même assez énorme et qu'on est qu'au troisième numéro. Bah malgré tout, ça me fait rien du tout, quoi. Ça me laisse totalement
Pourtant, ce
froid.
sera central à Trinity
Bah
War, donc
voilà,
il
moi pour ma
faut
part, je vais
rattraper votre
continuer.
retard.
Je vais continuer jusqu'à Trinity War. Et après, en fonction des conséquences de Trinity War, je verrai si je continue ou j'arrête ce titre. Parce que pour le moment, ça ne me passionne pas, quoi.
Oui, mais enfin, je vois pas. Enfin, ce sera lié à Trinity War, je veux bien. Mais là, pour le moment, je pense pas que même en loupant ces épisodes-là, je vais être perdu à arriver à Trinity War.
Je sais pas, je pense que cette fameuse société secrète doit être liée de près ou de loin aux événements de
Ouais, mais
Trinity
il
War.
suffira
Oui, il y
de
a des
lire
chances.
trois lignes de résumé pour me dire ce qu'il en est, et puis
Mais il
c'est
n'y a
tout,
pas de
parce que.
résumé à DC.
Oui,
Il n'y
non,
a
mais
pas de
bien
résumé
sûr.
chez DC.
Bien sûr, non, mais
Voilà.
quand je dis trois lignes de résumé, c'est sur Internet ou c'est vous qui allez me le dire. Mais je veux dire, ça va pas être. Je pense que si même je lis pas ces épisodes en détail, je vais pas rater grand-chose.
Donc finalement, Bruno, Nono, vos notes?
Pour moi, c'est un bail.
Ouais, moi aussi un petit bail. À noter, il y avait un backup encore sur le Martian Manhunter, qui lui est scénarisé par Matt Kint et dessiné par Manuel Garcia, qui revient sur une scène où on a le Martian Manhunter qui rentre dans les pensées de Catwoman, qui en retour, Catwoman aussi voit des visions un petit peu sur le passé du Martian Manhunter.
Est-ce que c'est
C'est
aussi intéressant que le premier backup du Martian Manhunter?
je les trouve, c'est un peu de dans la même veine, on va dire. C'est dans
Oui,
la
moi
même
j'ai
veine.
pas du tout accroché à ce truc-là, je l'ai lu, mais pour moi ça n'apporte strictement rien.
Parce que
Ça rend le personnage de Martian encore plus mystérieux, a priori, mais
pour le
bon,
deuxième
voilà.
épisode, donc avec le premier backup de Martian Manhunter, c'était Florent et toi qui avez fait la review il y a donc un
Ouais.
mois. Je me rappelle que Florent avait bien aimé le backup. Je me rappelle plus si toi tu l'avais bien aimé le premier backup.
Oui,
de
si, c'était pas mal, c'était malin. C'était,
moi, franchement,
en fait,
j'ai trouvé ça
malin.
Super chiant. Donc, je me dis que si c'est du même acabit, c'est vraiment, ça va me saouler. Moi, ça a fini de m'achever en fait. C'est pour ça que j'ai pas eu envie d'aller lire le 3.
Ça t'a fait un finishim, quoi.
Ah ouais, non, voilà. C'était déjà que c'était pas passionnant le 2. Alors en plus, finir avec ça, je me suis dit, oulala. Bref.
Non, là, c'est pas mal, c'est pas mal.
Ok. Et donc, toi, Nono, tu t'en fous, ça t'a pas accroché.
Ouais, ça m'est complètement passé au-dessus.
On va terminer l'émission comme chaque semaine avec les sorties TPB. On commence chez Boom avec Steed et Mrs. Peel, TPB numéro 1. C'est sorti chez Boom, c'est du 15$ avec le début de cette nouvelle série régulière reprenant les personnages de Steed et Peel qu'on avait pu voir dans The Avengers, Chapeau Melon et Bottes de Cuir en français, dont le premier arc est écrit par Mark Waid. On continue avec DC, un graphic novel qui est sorti, qui s'appelle, un TPB pardon, qui est sorti, qui s'appelle Batman Death by Design, scénarisé par Chip Kidd. Tout le monde a parlé un petit peu tout à l'heure, Bruno.
Oui, bah en fait c'est vraiment très spécial, hein. C'est vraiment des graphismes assez étonnants. Voilà, ça parle un peu du côté architectural de Gotham. Bon voilà, j'ai juste feuilleté, et ça m'a pas tenté moi trop, mais.
Je le signale quand même, je n'ai pas donné le prix, c'est à $15. On continue toujours chez DC avec la sortie en hardcover, si vous ne voulez pas attendre la sortie VF, pour peu que vous lisiez les séries en VF, du Batman Incorporated volume 1, reprenant les épisodes 0 à 6. C'est scénarisé par Grant Morrison et dessiné par Chris Burnham. Donc première moitié de la série Batman Incorporated, c'est au prix de $25 puisque c'est du hardcover. Et pour ceux qui sont patients, vous avez les épisodes français qui sortent dès ce mois-ci,
ouais,
normalement.
Dans Batman Saga.
Enfin, pour terminer chez DC, nous avons un Showcase Presents Superman Family TPB volume 4, avec donc des séries qui gravitaient autour de Superman dans les années 60, et notamment Superman's Pal Jimmy Olsen 45 à 53 et Superman's Girlfriend Lois Lane 17 à 26. On est dans du Superman un peu goofy, puisque c'était des séries satellites dans les années 60, avec des histoires un petit peu alternatives, et si Jimmy avait eu des pouvoirs, et si Lois Lane s'était mariée avec Superman, voilà. Bon, ça vaut plus pour le côté historique que pour la qualité des histoires, même si on a quand même du Kurt Swan au dessin, ce qui est plutôt pas mal. Ça vaut $20. Chez Image, nous avons la sortie du deuxième TPB de Thief of Thieves, si vous ne voulez pas attendre le numéro 2 en VF. Pour ceux qui sont très pressés de lire la suite, ça vaut $15. On continue maintenant chez Marvel avec un énorme bouquin pour accompagner la sortie du Absolute AVX qui sortira en octobre chez Panini. Vous avez le Avengers vs X-Men Companion. C'est du hardcover, ça vaut $100. Et vous avez tous les tie-in qui étaient dans les séries régulières pour AVX. Donc Avengers Academy 29 à 33, Secret Avengers 26 à 28, Avengers 25 à 30, New Avengers 24 à 30, X-Men Legacy 266 à 270, Wolverine and the X-Men 9 à 16 et 18, AVX Consequences 1 à 5, Uncanny X-Men 11 à 20 et le One Shot A Babies versus X Babies.
Ah, vraiment, je me le prends.
Juste pour le one shot.
Je l'ai déjà.
$100 le one shot, ça fait mal au cul quand même.
Ah non, mais attends, c'est génial.
Moi aussi, je suis entièrement d'accord, c'est génial, mais bon, $100,
non. J'espère que Panini va le sortir, quoi.
Ah, ce serait vraiment excellent, ouais. Ce serait une très bonne chose de le sortir. Voilà, si vous voulez récupérer tous les tie-in à AVX, mais que vous ne suiviez pas les séries régulières, pourquoi pas. Franchement, vous avez énormément de lectures pour $100.
Ouais, c'est clair.
Ça reste un produit, en termes de quantité, ça reste intéressant. Et puis, c'est du hardcover.
Mmh. Puis, ça fait beau dans une étagère.
Oui, voilà. On en parlait tout à l'heure en début d'émission, la sortie du premier TPB de Avengers Arena. Encore une fois, si vous ne voulez pas attendre la sortie française, vous avez les 6 premiers épisodes de cette série excellente que Bruno et Nono nous ont vanté encore cette semaine.
Ouais, c'est très bon.
Prenez-le. Au
prix de $16. C'est scénarisé par Denis Oples, bien sûr, avec des dessins de Kev Walker. Enfin, chez Marvel, non pas enfin, il en reste deux, pardon. Essential Defenders, pour ceux qui aiment le vieux, en noir et blanc. C'est scénarisé notamment par J.M. DeMatteis et Alan Kupperberg, quand même des vieux noms des années 80 que l'on se souvient.
Des vieux, quoi.
Avec à l'intérieur Defenders 126 à 139, la mini-série Iceman datant de 1984, ainsi que Beauty and the Beast. C'est au prix de $20. Donc c'est du Essential, hein, c'est du noir et blanc, mais ça vous permet d'avoir énormément d'épisodes pour un coût relativement modique.
Et puis ça brûle très bien dans une cheminée, c'est du papier journal.
Ouais, enfin, $20, ça fait cher la lumière.
C'est un peu cher, ouais.
Et enfin, on termine la partie TPB avec le Thunderbolts TPB volume 1. Encore une fois, si vous ne voulez pas attendre la version française qui comprend les épisodes 1 à 6, ça vaut $16, c'est du souple, hein. Une série que Benny aime beaucoup.
Ouais.
En tout cas pour les débuts.
Ouais, ouais.
Oui, c'était Steve Dillon au début, c'est ça?
C'est ça, ouais. Daniel Way et Steve Dillon.
Après
Dillon,
l'avoir lu, j'ai trouvé ça pas mal non plus.
Le premier arc de Steve Dillon.
Mais enfin, il y a longtemps que je suis plus aussi fan, donc bon, voilà. À chaque fois, tu dis j'aime beaucoup, mais oui, enfin, j'ai aimé les premiers, et puis bon. Après,
oui, mais t'étais le seul à les aimer quand tout le monde décriait la série, donc c'est pour ça que je te cite en exemple. Ouais.
Enfin, en même temps, tout le monde sait que Bunny n'est pas toujours de très bon goût. Donc...
La preuve, il n'aime pas le Batman et Robin.
Ouais. Non, cette fois-ci, je l'ai pas.
Et il n'aime pas Patrick Gleason.
Ouais, c'est vrai que je suis pas spécialement fan. Mais encore là, il m'a pas dérangé là sur ce numéro.
Et il aime Patrick Fury.
C'est complètement faux, par contre.
Je sais même plus comment repartir après ça, moi du coup je suis mort. Enfin bref, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine bien évidemment pour d'autres sorties comics. D'ici là, vous nous retrouvez sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr et vous retrouvez tous les anciens épisodes pour les réécouter ou les découvrir si vous ne les avez jamais écoutés et que vous avez envie de retrouver des vieilles reviews sur le site ou sur iTunes. D'ici la semaine prochaine, comme d'habitude, portez-vous bien, lisez plein de comics. Et faites la fête, j'en sais rien.
Ouais. À bientôt tout le monde.
Ouais, au revoir les enfants.
Par contre, j'aime beaucoup Patrick Bruel. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir les gens.